Rendez-vous avec la rédaction de l'Humanité sur Radio Orient. Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec l'Humanité. Patrick Le Yarrick, bonjour.
Bonjour.
Votre édito dans l'Humanité sur votre blog patrickleyarrick.fr, le petit oiseau et le gros rapace milliardaire. Vous revenez sur le rachat de Twitter par Elon Musk. Un homme qui, écrivez-vous, n'est pas un simple homme d'affaires sans pensée, ni arrière-pensée, ni idéologie. Comment vous définissez cette idéologie?
On voit bien que d'abord il se réclame du libertarien, c'est-à-dire la possibilité de faire tout et n'importe quoi, et surtout celle d'alimenter en permanence le capitalisme le plus sauvage. Ce n'est pas pour le bien commun qu'il travaille aujourd'hui, c'est pour la privatisation des biens et souvent à son profit.
C'est pourquoi vous parlez d'arrière-pensée?
En permanence, on le présente comme quelqu'un de généreux, qui porte la science, qui porte le progrès humain, parfois médical. Mais la vérité, c'est qu'il a un projet politique, économique, politique, social, même culturel, global, désormais, avec les quelques entreprises qu'il détient, dont des entreprises de taille mondiale. Et maintenant, son projet culturel et informationnel avec l'achat de Twitter qui va venir en complément, en renfort de ses entreprises à partir des bases de données que va recueillir Twitter.
Et quel impact cela peut-il avoir sur la société?
On voit bien que aujourd'hui, il y a un enjeu considérable avec les réseaux sociaux. On a à la fois la recherche de bases de données qui sont par la suite soit monétisées, soit utilisées au service des propres entreprises. Par exemple, on sait que avec la collecte de données importantes sur les individus, on peut à la fois orienter l'information qu'ils reçoivent, leur faire parvenir les publicités qu'ils n'ont pas souhaité, mais à partir de ce qu'ils ont consulté, mais aussi alimenter les réseaux des entreprises. Par exemple, il est vraisemblable que la voiture Tesla demain sera alimentée en information à partir des réseaux sociaux, à partir des réseaux Twitter. On sait également la base de données qu'ils recherchent avec son projet de Neuralink, qui est un projet dit neurologique, mais qui aujourd'hui vise à, comme on dit les spécialistes, coupler l'homme à la machine. C'est quand même pas un petit réseau social, c'est 450 000 tweets par minute, et les algorithmes choisissent les tweets qui vont faire, comme on dit, le plus de buzz, qui vont avoir le plus d'interaction, le plus de partage. Et donc, pour obtenir cela, il suffit pas d'avoir une information raisonnée, raisonnable, décryptée. Pour obtenir le repartage et pour obtenir du buzz autour d'un tweet, il faut évidemment la polémique, il faut évidemment que ce soit le plus gros possible, de telle sorte que ceci circule et donc attire la chalandise vers le réseau social.
Et vous soulignez que des études montrent qu'une fausse information émise par ce réseau a 70 fois plus de chances d'être partagée qu'une information vérifiée.
Oui, une enquête de 3 spécialistes nord-américains et nord-américaines ont montré que le tweet le plus raciste, le plus homophobe, la pornographie, est 70 fois plus retweeté qu'un tweet qui donne une information sur laquelle on pourrait débattre. Donc l'enjeu pour eux, c'est d'augmenter le temps de connexion, c'est d'exciter des réactions, d'exciter des passions pour, au bout du compte, rafler le maximum de revenus publicitaires qu'on enlève aux radios autonomes, même à la radio publique, aux télévisions autonomes et à la presse écrite d'information générale et politique, et on pourrait dire à l'ensemble de la presse écrite.
Ces réseaux sociaux qui, soulignez-vous, connectent tous les habitants de la planète pourraient être utilisés à bon escient. Vous parlez de vecteurs de fraternité, solidarité ou encore de partage d'expériences.
Oui, parce que on voit bien que cette technologie informationnelle nouvelle peut mettre chacun d'entre nous en contact avec des milliers ou des centaines de milliers de personnes habitant d'autres pays pour des échanges d'informations, pour des entreprises de solidarité, parfois quand il y a des catastrophes naturelles, pour réfléchir autour du climat et de créer un mouvement mondial pour le climat, pour créer des mouvements contre la pauvreté, la misère, voire même la guerre. Du reste, pour partie, ça se fait un peu en ce moment même dans le combat contre la guerre en Ukraine. Donc on voit bien que les réseaux sociaux pourraient être ce qu'on appelle un bien commun humain au service de l'intérêt général, au service de l'intérêt écologique et au service de la démocratie. Or, en privatisant les réseaux sociaux comme ils le font aujourd'hui, eh bien, évidemment, c'est destiné ça à au profit de quelques-uns à l'échelle de la planète, bien souvent d'ailleurs à quelques groupes nord-américains, parce que l'Europe, malheureusement, ne s'est pas dotée de tels outils, il n'est pas trop tard pour le faire, et pour orienter l'information, la désinformation. Les jours après que M. Musk a acheté Twitter, vous avez peut-être observé que je crois qu'ils ont eu des milliers et des milliers d'abonnements à Twitter et d'interactions sur Twitter des gens du Parti républicain, du parti de Trump aux États-Unis.
Vous ne prenez pas une nationalisation des réseaux sociaux, mais vous souhaitez davantage de régulation.
Si on pouvait en Europe, dans l'Union européenne, mais peut-être plus largement, mais en tout cas dans l'Union européenne, à quelques pays, se mettre en situation de créer un réseau social de caractère public, au service du bien public, au service du bien commun, ce serait un pas considérable, parce que ce serait un élément de partage de culture, ce serait un élément de fraternité, de meilleure compréhension entre les nations, entre les individus, entre eux. Mais dans l'immédiat, oui, il faut des systèmes de régulation. Du reste, il y a un système qui est en débat aujourd'hui, qui est proposé par la Commission européenne, et ceci est positif. C'est un premier pas qui permettra la régulation, notamment pour modérer les propos sur les réseaux sociaux.
Ce projet, hein, Digital Service Act, qui est pour
Voilà.
vous une esquisse aujourd'hui pour engager ce processus de régulation.
Oui, c'est une bonne base. Il faut se féliciter qu'on essaye de faire cela, parce que ça va permettre, d'une part, je pense, il faudrait que on ne laisse pas toutes les recettes publicitaires aller vers les grands groupes nord-américains alors qu'ils ne vivent que du pillage du travail des journalistes professionnels qui travaillent dans des conditions de plus en plus dégradées, et les journaux et les radios autonomes, même la radio publique, se trouvent aujourd'hui dans des situations financières difficile parce qu'on leur assèche la publicité, et d'autre part, il faudrait réguler, modérer, comme on dit, les propos, et les propos racistes, les propos sexistes, homophobes, antisémites, islamophobes, devraient être enlevés de ces réseaux sociaux pour avoir plutôt un réseau social, ou des réseaux sociaux à base d'échanges culturels et à base d'échanges d'informations.
Merci, Patrick Leyarrick.
Merci bien.
Votre édito dans l'Humanité sur votre blog, patrickleyarrick.fr, Le petit oiseau et le gros rapace milliardaire. C'était Rendez-vous avec la rédaction de l'Humanité dimanche sur Radio Orient.